France Inter.
Franceinter.com.
Salut, c'est Christopher de Paris. Je suis en train de regarder À vous de juger sur la 2. Et t'as Philippe Labro qui te cite Shakespeare au niveau de la politique shakespearienne. T'as Michel Cotta qui te parle de la haine viscérale ou torride. Non, c'est Labro qui a dit torride. Enfin bref, ils sont là en train de parler de... Et je crois que c'est là la différence entre tous ces grands soi-disant et puis nous, les AMG ou les êtres humains, quoi. C'est que eux, ils jouent. Et nous, on n'est pas encore conscients que, en fait, tout ça, c'est qu'un jeu. Mais eux, ils savent. Eux, ils jouent. Pendant que nous, on vit et qu'on vit une réalité. Eux, ils sont dans le jeu. Ils sont dans le théâtre. Ils sont dans l'exposition, la représentation. C'est un vrai bonheur. Merci, France 2. Portez-vous bien, les AMG.
Bonjour Daniel Mermet, merci. Je viens de prendre l'émission en cours de route. Bon, j'ai compris de quoi il s'agissait, mais c'est génial ce boucher. Quel dommage qu'il n'y en ait pas un peu plus partout et des grandes gueules, communistes ou pas communistes. Il est génial ce type. Non seulement j'ai ri, mais je l'approuve et quelque part, ça serait bien qu'il y ait plus de gens qui réagissent comme lui violemment quand quelque chose ne va pas et de l'ouvrir comme il dit. Donc voilà, eh ben, merci beaucoup. Au revoir.
Salut Daniel, à nouveau Jean-François du Morbihan. Superbe deuxième partie du village des Corbeaux. Enfin, moi j'ai retenu une chose et j'ai peur, parce que si la police et tout le monde vient perquisitionner à la maison, c'est qu'à la maison, si on soulève aussi un calendrier, j'ai en dessous les paroles de la chanson d'une chanson de Carla Bruni. Alors j'ai peur de la garde à vue. Allez, à bientôt Daniel, et encore, bravo.
À propos de France Télécom... rappelons-nous qui a privatisé France Télécom en grande partie, parce que c'était privatisé, par le gouvernement Rocard en 1990, qui transforme France Télécom en un établissement assujetti aux règles commerciales du fait de la transposition des directives européennes. Aujourd'hui, où la Poste va subir le même sort, qu'est-ce qu'on nous propose pour lutter contre cela, pour que la Poste, qui déjà a subi une grande part de privatisation à travers l'embauche de milliers de précaires et énormément de services qui sont déjà sous-traités, ceux qui sont soi-disant représentants des forces de gauche, nous proposent de faire un référendum pour dire si on est pour ou contre la privatisation de la Poste, et ils ne réclament même pas le retrait du projet de loi qui va la privatiser. Alors... Après, quand on dit, quand une dame sur le répondeur accuse les salariés de France Télécom de ne pas être assez courageux parce qu'ils ne font pas la grève, je trouve ça fort de café. Et surtout, ce qu'il a dit, le directeur de France Télécom, à part l'emploi du mot « mode » pour le suicide, il a surtout dit « il n'est pas question d'arrêter de restructurer ». Et c'est les restructurations qui font qu'on traite les gens comme des pions et qu'ils arrivent à des situations de désespoir.
Oui, bonjour, c'est Pierre de Marseille. Je voulais réagir par rapport à la saga du corbeau. J'ai bien ri pendant des jours, c'était vraiment fabuleux. Savoir si c'est l'œuvre d'un déséquilibré ou un simple canular, ça reste à déterminer. Mais j'ai trouvé cette histoire de Saint-Pons ubuesque. Ça m'a fait penser un petit peu au niveau de leur ville, ce qu'il faut dire ville, à l'histoire de Don Camillo et Pépone. C'était très amusant, c'était très français, franco-français. D'un autre côté, ce qui est amusant aussi, c'est le ridicule de ces flics de très haut niveau, parce qu'avoir tenté une telle opération sur des gens aussi ordinaires, c'était vraiment tuer une mouche avec un canon. Une mention spéciale à M. Bonnet, qui m'a fait beaucoup, beaucoup rire, et qui était un être merveilleux, à la fois philosophe, communiste convaincu, et puis animateur de son village, même s'il a bien des misères. Moi, en tout cas, je dis chapeau à toute l'équipe, à tous ceux qui ont été, les 11 qui ont été ennuyés, les 9 qui sont allés en garde à vue, de ne pas avoir craqué en dénonçant n'importe qui, n'importe comment, parce que c'est souvent le but de ces méthodes, et passer 70 heures en garde à vue pour en avoir fait 48, je peux vous dire que c'est pas une sinecure, hein. Alors, ce que je dis, c'est longue vie à leur feuille de chou, à la commune, et longue vie à la cigale. Merci encore.
Merci pour tous ces messages, chers AMG, auditeurs et auditrices modestes et géniaux. Et génial, comme vous l'entendez, je ne suis pas en studio. Je suis en mouvement, en voyage, je reviens de Lyon. Pourquoi étais-je à Lyon? Parce qu'il y a un événement très sympathique à Lyon. C'est une exposition à l'occasion du 50e anniversaire des éditions François Maspero. Figurez-vous qu'il y a 50 ans, eh oui, François Maspero éditait son premier livre. Et ça donne l'occasion au musée de l'imprimerie à Lyon d'une exposition sur l'aventure des éditions François Maspero. Plus de 1300 ouvrages ont été publiés chez Maspero entre 1959 et 1982. Donc voilà, une exposition qui retrace cette histoire tout à fait formidable. Ça, c'est une chose. Et puis, c'est un hommage donc à l'esprit de résistance, bien évidemment. Autre moment de la résistance en ce moment, le film de Robert Guédiguian qui sort ces jours-ci, dont l'on parle beaucoup. Alors, on en entend parler par des gens qui, eux-mêmes, dans leur vie, ne font pas trop preuve de cet esprit de résistance. Or, on le sait, et on le veut, la résistance se conjugue au présent. Et oui. Donc, aujourd'hui, nous aussi, on va rendre hommage à cet esprit de résistance en revenant sur la fiche rouge et sur les lettres des fusillés. On avait rendu hommage à travers ces lettres à cet esprit-là, à ceux qui ont donné leur vie pour qu'on puisse parler comme on le fait en ce moment. Et c'est eux qu'on va retrouver, c'est cet esprit qu'on va retrouver jusqu'à 16h. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut, c'est Vito de Montreuil. Voilà, avec des copains voisins de notre rue, on organise une zone de gratuité. Alors, comment ça se passe? En fait, il y a une rue piétonne, il y a des tables, il y a des objets que vous pouvez rapporter, n'importe lesquels. Il y a des gens, surtout des musiciens, il y aura une scène ouverte. Le bar gratuit aussi, si vous amenez votre bouteille. Et voilà, le tout, c'est pour partager, pour passer un moment de convivialité. En tout cas, la règle, c'est la liberté et on avait envie de le partager avec vous. Voilà, donc ça se passera rue de Villiers, à Montreuil, à 5 minutes du métro Mairie de Montreuil. Et ce sera dimanche 20 septembre, de 14h à 20h.
Bonjour, c'est pour vous saluer, monsieur Mermet, je vous adore. Car vous nous donnez vraiment le goût de la France. C'est plutôt rare. Moi, je suis de gauche et vraiment de gauche, car je viens du Québec. Et c'est plutôt rare de voir en France des gens comme vous. Et puis, on a surtout l'impression en France que ce n'est plus la France qu'on a connue dans notre jeunesse, ou il y a quelques années. Le pays des droits de l'homme, ce n'est plus ce qu'on pense vraiment ici, disons au Québec. Et puis, j'allais oublier, j'adore votre petit rire. C'est un rire plutôt philosophique. Et vous nous donnez vraiment l'envie de garder un ton de liberté et vous nous inspirez. Je vous remercie énormément et je vais tenter de vous écouter le plus souvent possible. Bonne chance à tous et puis à bientôt.
Oui, bonjour, c'est Paul Marcel de Toulouse. C'est pour vous signaler qu'à Toulouse, les groupes EDF et GDF Suez, ça castagne fort. Alors en fait, on a fait 46 jours de conflit et on est passé d'une situation annoncée par la direction de 520 suppressions de postes à la sortie à 66 créations d'emplois, et ce uniquement sur Midi-Pyrénées. Alors le seul hic, c'est que les directions ont balancé 262 entretiens préalables, pour fait de grève, débouchant pour l'instant, et rien que sur Toulouse, sur 4 licenciements secs de militants CGT. Alors il faut le faire savoir, et on a besoin de beaucoup de solidarité pour la défense des libertés, du droit de grève et du service public. A bientôt, suerte.
Près de Chalon-sur-Saône, un attentat fait 18 morts, 32 blessés graves. À Grenoble, une explosion détruit des quartiers entiers, 1500 blessés. À Bourg-en-Bresse, les boutiques sont saccagées le jour des obsèques du général de Benet. Telles sont les œuvres de terroristes étrangers et presque tous juifs. Arméniens, juifs polonais, espagnols rouges, juifs polonais, encore un juif polonais.
Le 19 février 1944, ces hommes étaient jugés à grand renfort de publicité par un tribunal militaire allemand. Le procès fut expédié en une journée. Le 21 février, ils étaient fusillés. Quelques jours après, la propagande nazie recouvrit les murs de France d'une affiche rouge, avec les photographies des fusillés. Elle attribuait la responsabilité des attentats terroristes à des communistes étrangers, en majorité juifs. 10 années plus tard, l'affiche rouge allait devenir le symbole du combat des immigrés pour la libération de la France. Et les 24 terroristes fusillés deviendront les légendaires résistants du groupe Manouchian, du nom de celui qui, au procès, fut désigné comme leur chef, le poète arménien Missak Manouchian.
Prison de Fresnes, le 21 février 44. Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. On va être fusillé cet après-midi à 15 heures. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie, je n'y crois pas. Mais pourtant, je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire? Tout est confus en moi et bien clair en même temps. Je m'étais engagé dans l'armée de la libération en soldat volontaire et je meurs à deux doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement.
Vous aviez vos photos sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants, l'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles.
Missak Manouchian.
Mort pour la France.
Joseph Potchoff.
Mort pour la France.
Olga Banchitz.
Mort pour la France.
Thomas Elek.
Mort pour la France.
Emmerich Glasch.
Mort pour la France.
Maurice Fingerzweig.
Mort pour la France.
Jonas Geduldig.
Mort pour la France.
Léon Goldberg.
Mort pour la France.
Szlamak Żywacz.
Mort pour la France.
Stanislav Kubacki.
Mort pour la France.
Marcel Reimann.
Mort pour la France.
Willy Shapiro.
Mort pour la France.
Wolf Weissbrot.
Mort pour la France.
Robert Wichitz.
Mort pour la France.
Robert Ruxel.
Mort pour la France.
Arpen Tavitian.
Mort pour la France.
Georges Kloarek.
Mort pour la France.
Spartaku Fontano.
Mort pour la France.
Rino de la Vegra.
Mort pour la France.
César Lucciarini.
Mort pour la France.
Amadeo Usaglio.
Mort pour la France.
Antonio Salvadori.
Mort pour la France.
Alfonso Celebagno.
Mort pour la France.
Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers, mais nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre, à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant.
Salut, c'est Daniel Mermel. Ah ben, si j'y suis, la vie à en mourir. Résister se conjugue au présent.
Flight number 2. Arriving.
Vous faisant de la butte, le 26 septembre 1943. Parents chéris, je ne sais plus que penser. Je sais que je vais te fusiller. Je suis courageux, mais je n'aurais pas cru que ma vie finirait aussi brutalement. Qu'allez-vous devenir? Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Jamais je n'aurais cru qu'une faute si peu grave était passible de la peine de mort. Ma vie aurait été bien courte. Elle a été heureuse. Elle aurait pu devenir merveilleuse après cette guerre. Mais non, encore non. Je ne peux croire que je vais mourir. Mes chéris, je vous serre dans mes bras. Je vous embrasse de tout mon cœur. Jean Grappin.
Métro, avenue, impasse, chaque jour leurs noms sont mille fois sur les lèvres du chauffeur de taxi, de l'écolier, du sans-papier qui se balade avec un papier où il est écrit Guy Moquet, avenue Gabriel Péri, avenue d'Estienne d'Orve, un sans-papier avec son nom difficile à prononcer, comme ceux de l'affiche rouge 23 qui criait la France en s'abattant. Mais que disent, que nous disent ces noms aujourd'hui sous le tas de poussière, les monceaux de poussière de l'histoire et de la mémoire, sous toutes les manipulations et instrumentalisations de l'histoire et de la mémoire, sous toutes les instrumentalisations, manipulations de la politique et du pouvoir dont ils ont été l'objet, la création de nomenclatura écrasante, la création de pouvoir en leur nom, sur leur nom, par ceux qui s'approprient le monopole des autres. Un livre formidable qui s'intitule « La vie à en mourir, lettres de fusillé de 1941-1944 ». Des lettres choisies et présentées par Guy Cribaud-Pisco et préfacées par François Marcot nous donnent à redécouvrir l'élan, la fraîcheur, la force, la beauté absolue de ces hommes et de ces femmes aussi, français ou étrangers, qui avaient 20 ans et qui ont donné leur vie pour la France, contre le nazisme, contre le fascisme, contre l'occupation, et qui ont écrit, avant d'être fusillés, des lettres. Les soldats viennent me chercher, je hâte le pas, mon écriture est peut-être tremblée, mais c'est parce que j'ai un petit crayon. Ou bien l'autre qui dit « Ne baisse pas la tête parce que ton papa est fusillé ». Ou bien, pour penser à moi, chanter. Un autre, il pleut sur la route. Ma chère femme, tu garderas mes lunettes en souvenir. Ces gens s'appelaient Tony Bloncourt, René Bonpin, Honoré d'Estienne d'Orve, Léon Jost, Arthur Loucheux, Guy Moquet, Gabriel Péri. Et en lisant ces mots, je ne prononce pas celui qui est difficile à prononcer, Henri Bachzok. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup d'étrangers qui ont donné leur vie de cette façon. Fusillés, guillotinés pendant l'occupation, victimes des Allemands et de Vichy. Dans l'attente de leur mort, ils adressent à leur famille, à l'être aimé, une dernière lettre. Et c'est avec ces lettres qu'on va, qu'on va passer cette heure. Et puis aussi Odette. Odette qui a été la fiancée, on va dire, d'un homme dont on répète le nom sans savoir toujours qui il est, sur les lèvres du chauffeur de taxi à l'instant où je parle, dans la bouche de l'écolier, ou sur le papier du sans-papier, le nom de Guy Moquet.
L'actualité politique. À Paris, M. Albert Clément, rédacteur en chef du Cri du Peuple, est assassiné par des terroristes. À Vichy, M. Paul Marion, secrétaire d'État à l'information, dénonce les crimes anglais et russes. Bombardement de populations civiles, assassinat terroriste.
Nous assistons à une recrudescence de cette agitation des comités populaires. Dans telle grande usine, les communistes passent même à l'action terroriste, sans souci de la vie des ouvriers. Et une bombe était récemment déposée dans un atelier. La masse est dressée contre ces pratiques, relevant non d'une doctrine politique, mais de l'aventurisme, dont ont toujours fait preuve, malgré leurs protestations, les dirigeants du Parti communiste, auquel on accola faussement le nom de Français.
Mais ne croyez-vous pas que la classe ouvrière sent instinctivement, avec son bon sens et son expérience habituelle, le guet-apens dans lequel on veut la faire tomber ?
C'est exact, mais il faut que nous l'informions davantage encore. Déjà, dans une série de réunions et de conférences, nous avons mis sous les yeux d'une foule attentive des documents irréfutables. Nous continuerons cette propagande jusqu'au moment où le prolétariat des usines fera justice lui-même de ceux qui veulent son malheur, sur lequel ils installeraient le régime du despotisme et de la tyrannie.
La nuit qui précéda sa mort fut la plus courte de sa vie. L'idée qu'il existait encore lui brûla le sang au poignet. Le poids de son corps l'écœurait. Sa force le faisait gémir. C'est tout au fond de cette horreur qu'il a commencé à sourire. Il n'avait pas un camarade, mais des millions et des millions pour le venger. Il le savait. Et le jour se leva pour lui.
Besançon, prison de la Butte, le 26 septembre 1943. Chers parents, ma lettre va vous causer une grande peine, mais je vous ai vu si plein de courage que je n'en doute pas. Vous voudrez bien encore le garder, ne serait-ce que par amour pour moi. Vous ne pouvez savoir ce que moralement j'ai souffert dans ma cellule, ce que j'ai souffert de ne plus vous voir, de ne plus sentir sur moi votre tendre sollicitude que de loin. Pendant ces 87 jours de cellule, votre amour m'a manqué, plus que vos colis. Et, souvent, je vous ai demandé de me pardonner le mal que je vous ai fait. Tout le mal que je vous ai fait. Vous ne pouvez douter de ce que je vous aime aujourd'hui. Car avant, je vous aimais par routine plutôt. Mais maintenant, je comprends tout ce que vous avez fait pour moi. Je crois être arrivé à l'amour filial véritable. Au vrai amour filial. Peut-être, après la guerre, un camarade parlera-t-il de moi, de cet amour que je lui ai communiqué. J'espère qu'il ne faillira point à cette mission, désormais sacrée. Je salue aussi en tombant mes camarades du lycée. À ce propos, elle même doit un paquet de cigarettes. Jacquin, mon livre sur les hommes préhistoriques. Rendez le comte de Monte-Cristo à Émergeon, trois chemins français, derrière la gare. Je lègue ma petite bibliothèque à Pierre, mes livres de classe à mon cher papa, mes collections à ma chère maman, mais qu'elle se méfie de l'âge préhistorique et du fourreau d'épée gaulois. Je meurs pour ma patrie. Je veux une France libre et des Français heureux. Non pas une France orgueilleuse et première nation du monde, mais une France travailleuse, laborieuse et honnête. Que les Français soient heureux, voilà l'essentiel. Dans la vie, il faut savoir cueillir le bonheur. Pour moi, ne vous faites pas de soucis. Je garde mon courage et ma belle humeur. Les soldats viennent me chercher. Je hâte le pas. Mon écriture est peut-être tremblée, mais c'est parce que j'ai un petit crayon. Je n'ai pas peur de la mort. J'ai la conscience tellement tranquille. Papa, je t'en supplie, prie, songe que si je meurs, c'est pour mon bien. Quelle mort sera plus honorable pour moi? Je meurs volontairement pour ma patrie. Nous nous retrouverons, tous les quatre, bientôt au ciel. Qu'est-ce que 100 ans? Maman, rappelle-toi, et ces vengeurs auront de nouveaux défenseurs, qui, après leur mort, auront des successeurs. Adieu. La mort m'appelle. Je ne veux ni bandeau, ni être attaché. Je vous embrasse tous. C'est dur quand même de mourir. Un condamné à mort de 16 ans. Henri Ferté. Excusez les fautes d'orthographe, pas le temps de relire.
Pas des crimes français. Derrière vous, pauvres pantins sanglants, il y a le bolchevisme moscoutaire, l'espagnol des brigades rouges, le juif des ghettos d'Orient. Il y a chez nous, comme partout, des dévoyés et des égarés, et vos attentats à vous sont étudiés et menés avec une technique qu'on apprend dans les écoles soviétiques. La balle dans la nuque est une signature.
Oui, ça, c'est des photos. Ça, c'était une vue du camp de Chateaubriand.
De la photo noir et blanc là.
Et alors ça, c'est les deux gars qui ont été arrêtés avec moi. Ça, c'est les trois gars qui ont été arrêtés avec moi, qui ont été gardés comme otages à Chateaubriand. Et puis ces deux-là, c'était des petits pépères de Drancy qu'on a retrouvés là-bas. C'est toute une équipe de Drancy, ça, voyez-vous.
Et vous avez les photos de Guy Moquet ?
Oui, moi j'en ai pas mal. On est ça. Là, c'était sa baraque. Là.
C'est lui, la Guy Moquet, là.
Là.
Ouais. Le jeune gaillard, là, en pantalon et un pull.
Il avait toujours ce pull vert gris.
C'est émouvant, là, ces photos, parce que on sent que chacun est arrivé là avec, évidemment, les habits qu'il avait.
C'était le début, tout à fait au début. Là c'est la belle-sœur Maurice Torres, celle-ci, jeune Dédé. Vous voyez celui-là, au revoir. Il s'est évadé, celui-là. C'est un jeune qui participait avec nous. Ses parents tenaient un... On appelle ça un truc de... C'était viticulteur à Reims. Et il était avec son frère, ils étaient arrêtés avec son frère. Et quand il s'est évadé, il a été enterré vivant. Ils lui ont tiré une balle et il était vivant, ils l'ont enterré. En 42. Vous voyez, c'est tout un truc... Alors ça, c'était pour mes 20 ans, là, quand j'étais à Gaillon. Là.
En détention.
Oui. Alors ça, une camarade qui m'a fait un poème, vous voyez. 20 ans, âge du doux espoir. Pour toi, ils vont fleurir loin de tous, loin de tous les bonheurs que notre douce affection atténue un peu leur tristesse. Tes 20 ans, ma petite Odette, sont quand même prometteurs de grands espoirs. Toutes nous t'embrassons bien affectueusement. Evelyne, Margot, Jackie, Paulette, Janine, Dédé, Totote.
Petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé, je vais mourir. Ce que je vous demande à toi, en particulier petite maman, c'est d'être très courageuse. Je le suis et je veux l'être autant que ceux qui sont passés avant moi. Certes, j'aurais voulu vivre, mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que ma mort serve à quelque chose. Je n'ai pas eu le temps d'embrasser Jean. J'ai embrassé mes deux frères, Roger et René. Quant à mon véritable, je ne peux le faire, hélas. J'espère que toutes mes affaires te seront renvoyées. Elles pourront servir à Serge, qui, je l'escompte, sera fier de les porter un jour. À toi, petit papa, si je t'ai fait, ainsi qu'à ma petite maman, bien des peines, je te salue pour la dernière fois. Sache que j'ai fait de mon mieux pour suivre la voie que tu m'as tracée. Un dernier adieu à tous mes amis, à mon frère que j'aime beaucoup, qu'il étudie bien pour être plus tard un homme. 17 ans et demi, ma vie a été courte. Je n'ai aucun regret si ce n'est de vous quitter tous. Je vais mourir avec Tintin, Michel. Maman, ce que je te demande, ce que je veux que tu me promettes, c'est d'être courageuse et de surmonter ta peine. Je ne peux pas en mettre davantage. Je vous quitte tous, toutes. Toi, maman, c'est Serge, papa, en vous embrassant de tout mon cœur d'enfant. Courage. Votre Guy qui vous aime. Guy.
C'est celle-là. J'ai conservé cette lettre 60 ans et c'est pourtant écrite sur un papier plure. Je l'avais gardée précieusement, vous voyez, je ne l'avais communiquée à personne, presque à personne. Parce que cette lettre m'avait été remise par un gendarme le jour où ils ont été fusillés. Ma petite Odette, je vais mourir avec mes 26 camarades. Nous sommes courageux. Ce que je regrette, c'est de n'avoir pas eu ce que tu m'as promis. Mille grosses caresses de ton camarade qui t'aime, Guy. Grosse bise à Marie et à toutes. Mon dernier salut à Roger, Rino, la famille et Jean Mercier. C'est très court, c'est-à-dire que c'est vraiment le dernier petit mot qui a été écrit sur un papier plure, qui a été écrit sur les genoux, m'a dit le gendarme. Il me l'a remis en me demandant de ne pas en parler, d'en parler à personne. Effectivement, aussitôt après, il y a eu une perquisition dans la baraque pour essayer de trouver ce qui avait été passé, etc. Et j'ai conservé cette lettre 60 ans. C'était un jeune gendarme qui était en sympathie un peu avec les jeunes. Il n'y en avait pas beaucoup de gendarmes qui étaient sympathiques, mais enfin, celui-là, il était particulièrement. Et il a été en sympathie avec les jeunes, c'est pourquoi quand les Allemands sont arrivés, les gendarmes étaient autour d'eux, et c'est à ce moment-là que Guy, paraît-il, lui a donné le petit mot. J'avais 17 ans et demi à l'époque, oui. Et Guy avait pareil, 17 ans et demi. Nous avions le même âge. Et alors, on était séparés par une espèce de barrière en bois et un barbelé. On s'est retrouvés à cette barrière. On s'est connus que dans le camp, où étaient arrêtés un groupe de politiques, les Jean-Pierre Timbaud, Paul Marc, etc., et tous ceux qui avaient été arrêtés dès 40, vous voyez.
Comment vous en venez à faire de la résistance à 17 ans et demi, vous? C'est jeune, ça.
Ben, c'est-à-dire que moi, je suis issue d'un milieu où on était communiste chez nous, vous voyez, tout jeune. J'ai milité dans des organisations des pionniers. Vous savez, les jeunes, ils n'acceptent pas d'être bridés, d'être... on ne pouvait pas accepter une occupation, vous voyez, ce n'était pas possible. Vous savez, on pense actuellement, on a l'air de dire, mais on n'était pas des héros, parce que les jeunes de maintenant, ils participent aussi d'une certaine manière. Peut-être moins avancé parce que la situation n'est pas tout à fait pareille. Mais enfin, dès qu'il y a un mouvement, c'est surtout la jeunesse qu'on voit au premier rang.
Odette, elle s'appelle Odette Milès, vous avez compris. Elle a été l'amie, la petite amie, ou presque la petite amie de Guy Moquet. Et c'est très beau ce qu'elle nous dit là, ce qu'ils ont fait, eux, à 17 ans et demi, cette impatience de la jeunesse, ce refus radical jusqu'à donner sa vie s'il le faut. Et c'est, voilà ce qui s'entend, ce qui se donne à entendre et à revivre dans ces lettres de fusillés de 1941-1944, la vie à en mourir. Alors, eux, c'est 1941, c'est-à-dire le tout début. Guy Moquet était né en 1924. Il était militant de la jeunesse communiste. Son père lui-même avait été arrêté. Et donc, il milite. Il milite à fabriquer des tracts, des tracts clandestins, coller des papillons contre l'occupation. Et ça, dès le début, dès 1940. Il est arrêté en 40 à Paris, à la gare de l'Est. Et puis, il se retrouvera à Châteaubriant. Il sera désigné comme otage le 22 octobre au matin. Et il sera fusillé le même jour à la carrière de la Sablière avec 26 autres otages, dont Odette Milès vient de nous dire Jean-Pierre Timbaud. Voilà ce que sont ces mots, ces rues, ces métros, ces avenues, ces places, des hommes, de jeunes hommes qui ne supportaient pas simplement et qui ont résisté.
Groupe de gendarmes qui ferment toutes les baraques, tous les issues, fenêtres, tout, etc., volets et tout. Ils nous enferment dans les baraques, vous voyez, ils ferment les portes et tout. Alors, en haut, il y avait une lucarne de notre baraque. Alors, cette camarade, on lui a fait la courte échelle, elle a grimpé. Et alors, c'est là qu'elle nous dit, oh, il y a les Allemands qui se dirigent vers la baraque des otages. Et alors, elle dit, oh, c'est curieux, elle dit, je les vois descendre. Elle dit, je vois Tintin. Alors, Tintin, c'était Timbaud, il était avec...
Jean-Pierre Timbaud, oui.
Il avait toujours une... côte jaune, vous savez, jaune, un peu côte d'ouvrier, vous voyez, avec sa casquette et sa pipe. Elle dit, je vois Tintin qui descend. Et alors, quand il est passé devant notre baraque, automatiquement, il a fait un signe. La camarade nous disait, oh, et puis j'en vois pas mal qui descendent. Mais elle ne pouvait pas nous dire combien, elle était vraiment très émue. Ils en ont pris tant dans telle baraque, tant là, pour compléter, pour en faire 27. Et la dernière baraque où ils sont passés, c'est la baraque de Guy, vous voyez. Et alors, quand on a entendu qu'ils partaient, qu'ils chantait la Marseillaise. On a accompagné, on est tous sortis. Je peux même dire que les femmes, elles sont sorties dans les premières, vous voyez. On a bousculé les gendarmes et on a chanté la Marseillaise. Enfin, on a chanté avec eux, mais une Marseillaise, vous savez, comment je vous dirais, on ne peut pas dire qu'on l'a chantée, on a hurlé la Marseillaise. Et quand le camion s'est ébranlé, je ne savais pas qu'il y avait Guy Moquet, vous voyez. Je ne savais pas. Alors, il n'y a qu'après... C'était quelque chose d'épouvantable. Hein. Il y avait Guy, mais il y avait aussi tout ce groupe. C'était quelque chose de terrible. C'est bête, hein. Vous voyez, je ne peux pas écouter la Marseillaise, même maintenant. Même maintenant, j'expliquais aux jeunes l'autre fois, je dis, quand j'entends la Marseillaise, c'est eux. C'est eux qui partent. Et ça ne me fait pas ça qu'à moi, mes six camarades qui restent, vous voyez, sont pareils. Dès qu'on entend le Marseillaise, c'est le départ des gars. Et on les revoit. Vous voyez, quand on est à Châteaubriand, qu'on voit ses portraits, on revoit celui-là mal habillé, le docteur Ténine, qui était toujours avec des vieux fringues, c'est le moment de dire, vieux costume de militaire. On voit un tel avec son petit béret, on voit un tel. Vous voyez, on ne les revoit pas dans la vie comme on nous les a présentés. On les revoit tels qu'ils étaient dans le camp, vous voyez. C'est bête, mon frère. C'est quelque chose qui m'a marqué très, très profondément, vous voyez, ça. Alors, je suis restée très longtemps, pendant tout le reste qui m'en restait, à penser à mes camarades, à tous mes camarades, tous. Parce que je les aimais beaucoup, vous voyez. C'était vraiment un sentiment que si, comme des frères, comme si j'en avais, on perd un lien, quelqu'un qui vous est très cher. Voilà.
Ce cœur qui haïssait la guerre, voilà qu'il bat pour le combat et la bataille. Ce cœur qui ne battait qu'au rythme des marées, à celui des saisons, à celui des heures, du jour et de la nuit. Voilà qu'il se gonfle et qu'il envoie dans les veines un sang brûlant de salpêtre et de haine, et qu'il mène un tel bruit dans la cervelle que les oreilles en sifflent, et qu'il n'est pas possible que ce bruit ne se répande pas dans la ville et la campagne comme le son d'une cloche appelant à l'émeute et au combat. Écoutez, je l'entends qui me revient, renvoyé par les échos. Mais non, c'est le bruit d'autres cœurs, de millions d'autres cœurs battant comme le mien à travers la France. Ils battent au rythme pour la même besogne, tous ces cœurs. Leur bruit est celui de la mer à l'assaut des falaises. Et tout ce sang porte dans des millions de cervelles un même mot d'ordre. Révolte contre Hitler et mort à ses partisans. Pourtant, ce cœur haïssait la guerre et battait au rythme des saisons. Mais un seul mot, liberté, a suffi à réveiller les vieilles colères. Et des millions de Français se préparent dans l'ombre à la besogne que l'aube proche leur imposera. Car ces cœurs, qui haïssaient la guerre, battaient pour la liberté au rythme même des saisons et des marées, du jour et de la nuit. Robert Desnos.
Ce que je regrette, dit-il dans la lettre, là,
oui,
est de ne pas avoir eu ce que tu m'as promis. Oui. Qu'est-ce qu'il veut dire par là?
Ben, écoutez, voilà, exactement, c'est pas ce qu'on croit, ce qu'on peut croire. Vous voyez, Guy était très amoureux de moi. Moi aussi d'ailleurs, un peu, hein, parce que j'osais pas trop lui dire, mais enfin, c'était quand même un peu...
Il était bel homme?
Il était très beau, puis moi j'étais pas trop moche. Alors, alors évidemment, on a eu un sentiment peut-être l'un pour l'autre, vous voyez, mais un sentiment qui était tout platonique, vous voyez. C'était simplement des discussions, on parlait même pas d'amour au travers de la barrière, parce qu'il y avait tout le monde, hein, d'abord, vous voyez. Mais Guy en parlait à ses camarades, vous voyez, autour de lui, tout ça. Bon, alors j'avais appris un peu. Et alors, ce que tu m'as promis. Alors un jour, Guy, vous voyez, c'est tout bête, il me dit, est-ce que tu serais d'accord de me faire un patin? Et moi, qui ne savais pas du tout ce que ça pouvait être qu'un patin, je lui dis, si tu veux, et c'est ça. Oui. Alors, évidemment, ça me gêne un peu maintenant, vous voyez, de ces choses-là, parce que ça a l'air tout bébête, mais enfin, c'était vraiment un amour très, très platonique, voyez-vous. C'était mon premier amour, si vous voulez, en quelque sorte, mon premier amour de jeunesse. Quoi. Voilà. Au travers une barrière et des barbelés. Voilà, voilà, c'est toute l'histoire de Guy Mocquen, mon petit mot. Voilà.
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants, l'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Français de préférence, les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents.
Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il méritera comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre, qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous.
Et vous avez dit bonheur à ceux qui vont survivre. C'est l'ultime lettre que Manouchian a adressée au sien, à Méliné. Tout avait la couleur uniforme du givre. Et c'était un jour comme aujourd'hui, regardé par la fenêtre, voilà, il y a du givre là où vous êtes. Et puis c'était des étrangers, regardez par la fenêtre, il y a des étrangers, des sans-papiers, des clandestins, des immigrés qui viennent manger le McDo des Français. À l'époque on disait le pain des Français, il ne venait pas du Maghreb ou du Mali ou du Sri Lanka, mais de Pologne, d'Espagne, d'Italie, de Roumanie. Au début des années 30, la France compte 3 millions d'immigrés, et la plupart ont fui leur pays pour des raisons économiques, mais d'autres pour des raisons politiques. Ils se sont battus en Espagne, ils fuient le fascisme qui monte dans leur pays. Ils rêvent de grands soirs et de matins qui chantent et ils sont étrangers, comme ceux qu'on voit par la fenêtre ici, aujourd'hui. Et ils étaient des résistants. Et la résistance, est-ce qu'il y a des résistants aujourd'hui? Oui, regardez, par la fenêtre, il y en a. Pas nombreux, mais eux n'étaient pas nombreux non plus. Mais contre quoi résister aujourd'hui? À l'époque, c'était la même question qu'on posait. Contre quoi voulez-vous résister? C'est pas vous qui allez changer le monde. Vous êtes des donneurs de leçons. Vous n'avez pas de droit. Vous n'êtes pas compétent. C'est la question qui se posait déjà à l'époque. Et ce que nous raconte ces voix, ce que nous dit cette chanson, l'affiche rouge, c'est ça. C'est
L'insoumission, c'est la désobéissance, c'est la voix de ces hommes-là.
J'ai un regret profond de ne t'avoir pas rendue heureuse. J'aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre, sans faute, et d'avoir un enfant, pour mon honneur, et pour accomplir ma dernière volonté. Marie-toi avec quelqu'un qui puisse te rendre heureuse. Tous mes biens et toutes mes affaires, je les lègue à toi et à ta sœur, et pour mes neveux. Après la guerre, tu pourras faire valoir ton droit de pension de guerre en tant que ma femme, car je meurs en soldat régulier de l'armée française de la libération. Avec l'aide de mes amis, qui voudront bien m'honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits, qui valent d'être lus. Tu apporteras mes souvenirs, si possible, à mes parents en Arménie. Je mourrai avec 23 camarades tout à l'heure, avec le courage et la sérénité d'un homme qui a la conscience bien tranquille. Car personnellement, je ne fais de mal à personne. Et si je l'ai fait, je l'ai fait sans haine.
Ma chère petite maman, quand tu liras cette lettre, je suis sûr qu'elle te fera une peine extrême et je serai mort depuis un certain temps et tu seras consolé par mon frère qui vivra heureux avec toi et te donnera toute la joie que j'aurais voulu te donner. Excuse-moi de ne pas t'écrire plus longuement, mais nous sommes tous tellement joyeux que cela m'est impossible quand je pense à la peine que tu ressens. Je ne puis te dire qu'une chose, c'est que je t'aime plus que tout au monde et que j'aurais voulu vivre rien que pour toi. Je t'aime, je t'embrasse, mais les mots ne peuvent dépeindre ce que je ressens. Ton Marcel, qui t'adore et qui pensera à toi la dernière minute, je t'adore et vive la vie. Marcel. Mon cher Simon, je compte sur toi pour faire tout ce que je ne puis faire moi-même. Je t'embrasse, je t'adore, je suis content, vis heureux, rends maman heureuse comme j'aurais voulu le faire si j'avais vécu. Vive la vie belle et joyeuse comme vous l'aurez tous. Préviens mes amis et mes camarades, je les aime tous. Ne fais pas attention si ma lettre est un peu folle, mais je ne peux pas rester sérieux. Marcel. De lettres de Marcel Reymann à sa mère et à son frère, prison de Fresnes, 21 février 1944. Arrêté le 16 novembre 1943, Marcel Reymann est condamné à mort avec 22 camarades. Sa photographie figure sur la fameuse affiche rouge des nazis, présentant les résistants de la Moy comme une armée du crime, avec la légende « Reymann, juif polonais, 13 attentats ».
Prison de Fresnes, le 21 février 1944. Yaninka, chérie, aujourd'hui à 3 heures, je serai fusillé. Jusqu'au dernier moment, je me conduirai comme il convient à un ouvrier juif. Je vais mourir, mais ne m'oublie jamais. Et quand on aura la possibilité, si quelqu'un de ma famille vit encore, raconte-lui. Je vais mourir, mais toi, tu vivras. Et je te souhaite le meilleur pour ton avenir. Je te quitte, ainsi que tous ceux que j'ai connus. Et courage, courage, et encore courage. L'avenir et les lendemains meilleurs ne sont plus pour moi. Je t'embrasse. Tes parents, tous les amis. Vis, ton très cher Grzywacz Szlamek. Post-scriptum, mes affaires sont restées à la Villa Verlaine.
Misiak Manouchian.
Mort pour la France.
Joseph Potchov.
Mort pour la France.
Olga Banchitz.
Mort pour la France.
Thomas Elek.
Mort pour la France.
Émeric Glache.
Mort pour la France.
Vous n'aviez réclamé la gloire, ni les larmes.
Mort pour la France.
Ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans, déjà. Que cela passe vite, 11 ans.
Mort pour la France.
Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans.
Robert Rouxel.
Mort pour la France.
Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes.
Mort pour la France.
Noir de barbe et de nuit, hirsute menaçant. L'affiche qui semblait une tache de sang parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles.
Mort pour la France.
Antonio.
Il cherchait un effet de peur sur les passants.
Mort pour la France.
Nul ne semblait vous voir. Français de préférence.
Thomas Elec.
Mort pour la France.
Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos mort pour la France.
Mort pour la France.
Et les mornes matins en étaient différents.
Mort pour la France.
Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. C'est alors que l'un de vous me dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard, en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline. Que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants m'amuliner. Oh mon amour, mon orpheline, et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers, mais nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre, en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant.
C'était Là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet. Merci à Odette Niles et à Thierry Scharf. À voir au cinéma L'Armée du Crime de Robert Guédiguian en salle en ce moment. N'oubliez pas l'exposition pour le cinquantenaire des éditions Maspero au musée de l'imprimerie, c'est à Lyon, et jusqu'au 15 novembre. Toutes ces informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émissions Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Philippe Duclos et Sandrine Laurent. Réalisation Coyen Guyenne et Raphaël Moutarde. Assistante Agnette Lebot. Chef du répondeur Catherine Pinto. Le numéro du répondeur de Là-bas si j'y suis, 01 56 40 37 37.